Il y a ces moments, il y a ces jours où le Seigneur nous permet de goûter ce que sera le moment où on sera en sa présence, tous rassemblés, à le voir face à face et à le chanter tous ensemble d'une seule voix. Mais quel plaisir déjà ce matin de pouvoir chanter avec vous, de pouvoir prier avec vous, de pouvoir être riche de dons et de capacités dans notre Église qui nous permettent d'offrir ce culte à notre Dieu. Et j'espère comme moi que c'est le désir de votre cœur ce matin que le Seigneur puisse être réjoui même de l'imperfection de nos chants, de nos voix, mais qu'il puisse être réjoui de la sincérité de notre cœur et du désir que nous avons de le glorifier et de le louer. Et c'est vrai que parfois cela passe, comme l'a dit Lydia, par tout simplement se forcer à changer de perspective et à voir les choses différemment. Et lorsque Jésus nous disait qu'il fallait qu'on redevienne un petit enfant, il n'avait d'autre intention que de nous dire à certains moments, c'est vrai, mettez de côté la façon dont vous regardez les choses souvent et regardez-les de façon beaucoup plus simple. Et regardez-les aussi d'une façon que cela vous émerveille. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous émerveiller. Et ce matin, je vais vous demander de remettre vos lunettes d'enfant. Non pas parce que c'est moi qui vous le demande, mais parce que pour saisir ce que la parole nous dit, il y a un moment où il va falloir mettre de côté notre façon de voir les choses pour embrasser et comprendre ce que nous dit le Seigneur. Et ce matin, avec Pierre, nous allons poursuivre ce que nous avions déjà commencé, ou plutôt ce que Philippe et Jean-Paul ont commencé au mois de novembre, sur l'homme et en particulier la création de l'homme. Et au mois de novembre, Jean-Paul et Philippe avaient commencé à nous parler de cette place tout à fait particulière et spéciale que l'homme avait dans la création. Et vous savez comme moi, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, c'est qu'on se rend compte que parmi tous les êtres et tout ce que Dieu a créé, l'homme a cette place un peu tout à fait spéciale. Et il parle beaucoup plus de l'homme qu'il parle de toutes les autres créations. Et puis une des choses en particulier qui nous est dite dans le texte de la Genèse, c'est que l'homme a été créé d'une façon spéciale, il a été créé à l'image de Dieu. Et là, Philippe s'est étendu là-dessus pour nous parler un petit peu de ce que signifiait cette image de Dieu. Mais ce matin, moi ce que je voudrais faire, c'est continuer à plonger mes regards dans cette création de l'homme. Et j'aimerais ce matin qu'avec le psalmiste, tous, et je le dis déjà au début, mais j'aimerais que ça soit à la fin, c'est que tous nous puissions repartir en disant « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et je suis certain que dans notre salle ce matin, la plupart d'entre nous n'avons même pas peut-être le courage ou la volonté ou le désir ou même le cœur à pouvoir éclater comme ça en disant peut-être devant tous les hommes « Je te loue, Seigneur, de ce que moi, John, je suis une créature si merveilleuse. » Si je ne lisais pas les psaumes, ce n'est pas le genre d'exclamation qui me viendrait. Parce qu'il y a tellement de choses que je vois dans ma propre vie et même dans la vie des autres, où je dis, ouais, c'est des... D'accord, ce sont des hommes, mais bon, il y a quand même pas mal de faiblesses, il y a quand même pas mal de choses qui vont mal. Et pourtant, David, lui, il dit à un moment, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et ce matin, j'aimerais m'attarder sur deux éléments, deux aspects de l'homme qui me paraissent importants. Et j'aimerais que vous repartiez en vous disant, waouh, ce que le Seigneur a fait, c'est assez extraordinaire. La première, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, homme et femme. Alors, tous ceux qui ont été dans des relations amoureuses, tous ceux qui ont vécu un certain temps dans une relation maritale, c'est pas mal d'être avec un conjoint, mais quand même, ça entraîne un certain nombre de questions, de problèmes, et ce n'est pas toujours chose facile. Et pourtant, lorsqu'on regarde la création et lorsqu'on lit le livre de la Genèse, on se rend compte qu'une des beautés de la création, c'est que la création est diverse, elle est riche, elle est différente. Et que lorsque vous lisez, tout simplement, vous rendez compte que premièrement, le Seigneur a créé le règne animal, il a créé le règne minéral, il a créé le règne végétal, Et ces trois règnes qui ont toutes leurs spécificités existent dans une seule et même création et participent à la beauté de cette création. Et certains géologues vous diront que le moindre caillou, il est vachement beau. J'avoue qu'il y a certains cailloux qui sont très beaux. Mais au fur et à mesure qu'on avance, qu'on passe dans le règne végétal, qu'on découvre toute la diversité des fleurs, des plantes, de leur fonctionnement, et qu'on arrive dans le règne animal et qu'on découvre là tout le caractère sophistiqué de cette création, on se dit, mais Seigneur, cette diversité que tu as créée est absolument extraordinaire. Mais ce qui est aussi de façon extraordinaire dans la création, c'est que vous avez à la fois non seulement le règne animal, minéral et végétal, mais vous avez aussi tout l'environnement dans lequel il existe. C'est-à-dire que les astres aujourd'hui existent dans les cieux, que les poissons nagent dans l'eau et que l'homme et les animaux marchent sur la terre. Et qu'il y a cette imbrication, il y a cette complémentarité de toutes les parties de la création qui font qu'il y a des moments où on regarde le tout et on se dit « Waouh !» Mais c'est bien parce que le Seigneur a créé la création diverse, multiforme, différente, qu'aujourd'hui on peut s'émerveiller. Si tout était pareil, ça serait monotone. Et il en est de même. Il en est de même dans la création de l'homme. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, au chapitre 5 du livre de la Genèse, lorsque Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme et le bénit, et il leur donna le nom d'homme. Aujourd'hui, l'humanité n'existe pas, ou dans l'intention du Seigneur, l'humanité n'existe pas sans la distinction des sexes et la distinction des genres. Ok ? Toute cette blague qu'on dit que le Seigneur avait fait un brouillon avant d'avoir fait le chef-d'œuvre, excusez-moi mesdames, ce n'est pas tout à fait biblique. Le Seigneur nous a créés différents parce que le Seigneur veut que sa création soit diverse et différente pour qu'elle trouve sa complémentarité et sa beauté dans cette distinction. Et vous savez comme moi que c'est une image que Paul va reprendre plus tard pour parler de l'Église. C'est que l'Église, dans sa richesse et sa beauté, elle la trouve dans sa diversité et la distinction des personnes. Alors Philippe nous a bien dit que la distinction des genres et des sexes était une partie de l'image de Dieu en nous. Et ce n'est pas faux. Quelque part, ça nous renvoie à ce qui est à l'intérieur même de Dieu et cette pluralité dans la distinction des personnes qu'est la Trinité. Et que quelque part, le Seigneur avait certainement une intention de dire « Là où l'homme est mon image sur terre, mon effigie, je vais lui aussi lui donner quelque chose qui reflète, qui représente en partie cette richesse et cette complexité, mais cette communion extraordinaire qui existe entre les trois personnes de la Trinité en Dieu lui-même. » Et c'est là l'intention de Dieu. Mais certainement, ce qu'il y a de plus intéressant dans cette distinction entre l'homme et la femme, c'est aussi que ça renvoie au fait que Dieu veut que l'homme soit en relation. Dieu ne veut pas qu'un individu vive de façon totalement séparée d'autres individus. Dieu ne veut pas qu'on soit complètement séparés. Et là, puisque la première manifestation sera dans la relation maritale, dans la relation dans le mariage, Dieu, de façon constitutionnelle de notre être, veut que nous soyons des êtres en relation les uns avec les autres. Et tout ça, ça va se poursuivre et s'amplifier. Il y a d'abord la relation entre Dieu et les hommes qui existe. Il y a la relation entre l'homme et la femme. Mais ça va se poursuivre dans la relation entre les parents et les enfants. Ça va se poursuivre dans la relation à l'intérieur même de l'Église, entre tous les membres du corps de Christ qui ne forment qu'un parce qu'ils sont unis par le Saint-Esprit dans leur relation pour ne former qu'un seul corps. Et c'est là une des grandes distinctions entre la création de l'homme et tous les autres êtres que le Seigneur a pu créer. Alors bien sûr, il y a des communautés d'animaux, il y a des relations entre les animaux, les choses comme ça et tout, mais il n'empêche que ce que nous vivons en tant qu'êtres humains est de loin plus sophistiqué, plus compliqué, plus beau, plus riche que ce que le reste de la création peut connaître. Et en cela même, cela montre aussi notre supériorité sur les anges, qui ne sont que des êtres indépendants les uns des autres, qui ne connaissent pas de relations maritales entre eux, qui n'enfantent pas et qui ne vivent pas dans une collectivité ou dans une communauté qui ressemble à celle de l'Église, conduite par un chef qui s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes des êtres extraordinaires dans le cadre de la création. Mais il y a certaines implications qui découlent donc de cela. Et il y en a trois que je vois. Naturellement, c'était la création, la relation interpersonnelle que le Seigneur a voulu. Et je vous rappellerai peut-être ce verset, si vous vous en souvenez, au moment où le Seigneur avait créé Adam, à un moment, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et là aussi, ce n'est pas un constat de la part du Seigneur qui dit « j'ai pas réussi du premier coup, il va falloir que j'ajoute quelque chose pour rééquilibrer un petit peu ». C'était parfaitement dans l'intention du Seigneur. Mais il déclare dès le départ, par cette phrase, que tout simplement son œuvre n'est pas encore achevée tant qu'il n'a pas créé la compagne qu'il fallait pour l'homme. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur a fait cela? Beaucoup de théologiens se sont posé la question, à savoir pourquoi est-ce qu'il l'a fait par étapes. Mais peut-être la première était tout simplement de dire l'homme est d'abord et avant tout en relation, et quand je dis l'homme, c'est l'être humain, est d'abord et avant tout en relation avec son Créateur. C'est là fondamentalement la relation qui prime sur toutes les autres, de laquelle va découler toutes nos relations, qu'elles soient des relations conjugales ou qu'elles soient des relations parents-enfants ou qu'elles soient des relations entre tous les êtres humains. Elles trouvent leur source dans la relation que nous avons en tant que créature avec notre Créateur. Et une fois que cela a été posé, le Seigneur dit « Mais il n'est quand même pas bon en tant qu'être humain que l'homme masculin soit seul. Il lui faut un homme féminin. » Et c'est pour ça que le Seigneur a créé la femme. Et c'est pour ça que la relation donc, du mariage a été instaurée à ce moment-là. Et tout ça, cette relation va se poursuivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement dans la relation conjugale, mais dans la relation avec les autres et dans la relation filiale avec nos propres enfants. Donc là encore, même lorsque nous avons, et c'est là où je dis qu'il faut remettre nos lunettes d'enfant, c'est que nous avons certainement beaucoup tous souffert de relations. Et on se dit, plus je me retire des relations, mieux ça sera. Je me retire complètement, je suis en relation avec personne, et comme ça je ne souffrirai pas. Et pourtant, il n'y a rien de plus contraire à ce que le Seigneur a voulu dans sa création. Et ce matin, ce n'est pas une question de commandement, c'est une question de simplement redécouvrir ce qu'est la création de notre Seigneur. C'est que nos relations avec notre conjoint, nos relations avec nos enfants, nos relations avec les autres, fait partie de l'intention créationnelle de notre Dieu pour nous. Et nous en avons tous besoin. Et nous pouvons tous, par cela même, être en bénédiction les uns envers les autres. Pour revenir au couple, lorsqu'il est dit dans Genèse 5 qu'il créa l'homme, et il créa l'homme, homme et femme, et il leur donna le nom d'homme, il nous faut poser immédiatement le fait qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Dans la création du Seigneur, il n'y a pas de distinction ni de hiérarchie entre l'un et l'autre. Il n'y en a pas un qui est inférieur ou l'autre qui serait supérieur à l'autre. Ils sont tous les deux créés, êtres humains. Et s'il y a une complémentarité des rôles auxquels on reviendra, il n'empêche que le commandement de se subjuguer toute la création et de dominer sur la création est donné autant à l'homme masculin qu'il est donné à l'homme féminin. Et cette place dans la création, cette domination et ce règne sur la création est quelque chose qui est donné autant à la femme qu'il est donné à l'homme. Ainsi donc, chers amis, si à un moment vous avez voulu être garçon plutôt que fille, ou si vous avez voulu être fille plutôt que garçon, ou si vous êtes déçu de ceci ou de cela, ne le soyez pas. Dieu vous regarde de façon digne parce que vous êtes, vous, dans votre féminité, vous, dans votre masculinité, créé à l'image de Dieu comme il le souhaitait et dans cette distinction, et qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre dans le cadre de la création. Et c'est une dignité, une position qui va s'étendre et qui va traverser toute l'histoire et qui va jusque dans le salut. Ou bien là même, l'apôtre Paul nous dit qu'en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le cadre du salut, il n'y a plus ni grec ni juif, toutes ces distinctions qu'on voulait faire avant. Il n'y a plus d'homme libre ou d'esclave qui fait que les uns ont des droits et d'autres n'ont pas de droits. Et il ajoutera que dans le salut et dans le Seigneur, cette distinction homme-femme ne joue pas parce que ce salut est accessible à tout le monde. Et l'image ira beaucoup plus loin, on dépassera toute l'idée de la circoncision qui était simplement réservée aux hommes pour que le signe devienne celui du baptême auquel est appelé tout le monde, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Et puis on poursuivra encore plus loin dans le cadre de l'Église, où là aussi les dons sont distribués de façon totalement libre, nous est-il dit, aux hommes et aux femmes. Le Saint-Esprit descend sur vos enfants, qu'ils soient garçons ou qu'ils soient filles. Et si j'insiste un petit peu là-dessus, c'est que il n'empêche que dans notre monde subsiste encore une des plus grandes discriminations qui existent aujourd'hui, c'est la discrimination entre les hommes et les femmes. Alors je sais, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Mais c'est un fait. C'est un fait que persiste encore aujourd'hui dans la perversion du péché, le fait que les femmes sont encore considérées comme étant inférieures à l'homme. Et dans beaucoup de sociétés encore, et il ne suffit pas d'aller très très loin, même dans nos propres sociétés, il y a encore des distinctions qui sont faites, qui traduisent le fait qu'on regarde une femme de façon différente qu'un homme. On ne remonte pas très quelques décennies en arrière pour le droit de vote dans nos propres pays. Aujourd'hui encore, que ce soit la rémunération salariale, c'est clair et net. Il y a encore, devant les travaux ménagers à la maison, élever les enfants. Il y a encore énormément de lieux aujourd'hui où nous entretenons une image parfaitement erronée qui fait que quelque part, la femme est inférieure à l'homme. Et la création ici nous dit, ce n'est pas vrai. Nous les hommes, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes plus créés à l'image de Dieu que sont les femmes. La femme a été créée pour être à côté de nous et nous représentons ensemble cette humanité que le Seigneur a voulu. Et c'est dans nos relations conjugales et les uns avec les autres que nous célébrons ce que le Seigneur a voulu pour que nous soyons en relation les uns avec les autres. Mais cela dit, si le Seigneur a créé les choses différentes les unes des autres, c'est bien qu'il entendait qu'elles ne soient pas les mêmes. C'est un petit peu enfoncer une porte ouverte là. Hein ? Mais je veux dire, dans le contexte de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui dans notre pays, on peut se poser la question. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de chercher à niveler toutes les différences ? Comme s'il fallait que nous soyons, pour être égaux, parfaitement identiques. Dans le Seigneur, c'est faux. Nous pouvons être différents et avoir le même statut devant lui. Nous n'avons pas besoin d'être identiques, des copies conformes. Et c'est ici où le Seigneur, lorsqu'il a créé cette différence entre l'homme et la femme, c'est bien parce que sa création est diverse et c'est dans cette diversité et sa complémentarité qu'elle est belle. Qu'elle est bienfaisante, qu'elle est riche et qu'elle nous permet de vivre quelque chose d'extraordinaire qui va au-delà de ce que nous sommes simplement tout seuls. Et c'est là que si le Seigneur a jugé de créer l'un et l'autre différents, c'est bien qu'il entendait que nous restions différents d'une façon ou d'une autre. Mais là, on pourrait rentrer dans de nombreuses discussions sur, à savoir, oui d'accord, où se trouve donc cette distinction ? Mais il est vrai que lorsqu'on lit le livre de la Genèse, il y a un certain nombre de choses qui se passent autour de l'homme Adam, et il y a un certain nombre de choses qui se passent autour de la femme Ève. La femme Ève est créée pour être une compagne à Adam. Et donc, là aussi, il y a des questions de différence, de complémentarité. Mais j'aimerais attirer votre attention tout de suite sur le fait que dans la Genèse, au chapitre 3, après la chute, il nous est parlé de cette malédiction qui va toucher la femme, que ses désirs se porteront vers son mari et que son mari dominera sur elle. Mais figurez-vous que ce mot « dominer » dans le chapitre 3 n'est absolument pas le même que ce qu'on trouve dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Et que ce qu'était l'intention du Seigneur au début de cette complémentarité, de peut-être ce rôle d'autorité que l'homme avait dans la relation conjugale sur sa femme, a été complètement tordu et perverti avec la chute. et que la domination que l'on voit aujourd'hui des hommes sur les femmes, dans la plupart des cas, est plus une manifestation du péché et de la malédiction que ça ne l'est de l'intention créationnelle de notre Dieu. Et qu'est-ce qu'on retrouve après, plus tard, sous la plume de l'apôtre Paul ? C'est là aussi où il rappelle quel est cet ordre créationnel que le Seigneur voulait et qu'il souhaite rétablir dans le mariage et dans le monde, c'est que l'homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'homme, et la femme est la gloire de l'homme comme l'homme est la gloire de Dieu. Et là, on retrouve toute cette complémentarité qui n'est pas une question de hiérarchie et de subordination et de domination malsaine, mais qui est de trouver cette complémentarité dans le reflet que nous sommes de Dieu. Et si ici il est dit que l'homme est le reflet et la gloire de Dieu et que la femme est la gloire de l'homme, il n'y a nulle part une notion d'infériorité entre l'un et l'autre, mais une complémentarité de rôle. Et de même, s'il est parlé à un certain moment de « femmes, soyez soumises à vos maris » et qu'en parallèle il nous est rappelé « hommes, aimez votre épouse comme le Seigneur a aimé l'Église », j'aimerais savoir qui pourrait me démontrer comment le Seigneur a aimé l'Église en piétinant son épouse. Le modèle qui nous est donné est un modèle qui va à l'encontre d'une domination qui écraserait son épouse. Mais au contraire, c'est dans un service qui en fait honore son épouse et lui donne sa place dans la création, celle que le Seigneur a voulu. Je pourrais continuer longuement, mais là aussi, simplement, je voudrais que vous remettiez vos lunettes d'enfant. Et quoi que vous ayez vécu, c'est de replonger vos regards dans ce que le Seigneur a créé et de se dire « Waouh ! Ma relation conjugale, mon mariage, indépendamment de la façon dont il a peut-être été marqué par le péché, c'est une des plus belles choses que le Seigneur ait créées au sein de sa création. Et que nous sommes appelés ensemble, dans notre mariage, dans notre complémentarité, à être cette image de Dieu dans la création. » De quoi réfléchir pendant un moment. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que je crois que j'étais peut-être un petit peu plus long que ce que je voulais. Pierre, je vais te laisser la place pour continuer là-dessus.
Et c'est vrai que, en préparant cette réflexion, cette étude sur l'homme, c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est sans cesse la proximité vraiment de Dieu, de notre Père, qui est là toujours à la rescousse, quoi, toujours derrière nous, derrière les hommes, derrière l'humanité, pour essayer de redresser ses torts. Et justement, on a pu voir un peu, à travers la création, un peu tout ce qu'était le plan de Dieu. Et moi, ce que je voudrais apporter ce matin, c'est vraiment ce plan de Dieu, et rentrer un peu plus en profondeur par rapport à notre nature. On en a pas mal parlé, cette nature donc de pécheur, hein, qui est fortement ancrée en nous. Et donc, il y a eu un plan que Dieu, dès le début, a instauré. Et ce plan, sans cesse, il s'y est accroché, s'y est fié, et n'en a pas, s'est pas dérouté de cela. Et forcément, ce plan, puisqu'il était fait selon la volonté de Dieu, ce plan, il est bon et agréable et parfait. Et bien sûr, en vis-à-vis de ce monde parfait, hein, qui a été rappelé, où tout finalement était le paradis, dans nos relations, dans la relation avec Dieu, à la suite de la chute, l'homme a été chassé. Et puis, il y a eu ce premier meurtre. Un nouveau désordre. L'homme s'est livré finalement à lui-même. Et puis, a été de plus en plus gangréné par le péché. Et bien vite donc, la nature de l'homme a changé. Et de notre nature, qui était initialement sainte, parfaite, cette nature s'est contaminée, corrompue parce que contaminée par le péché. Et donc cette nature est devenue mortelle. Notre nature sainte, vivante, est devenue mortelle. Et à la différence, donc John en a parlé aussi, des anges qui ont été créés spécifiquement, l'homme est devenu une seule race, et une seule race de pécheurs, à la suite, finalement, de la chute de notre premier parent, Adam et Ève. Alors j'ai dit race parce que depuis la chute, nous naissons tous condamnés par le péché. Et en plus, on n'a aucune possibilité propre d'en réchapper. Ainsi donc, les hommes vivent dans un monde qui est totalement vendu au péché et qui sont confrontés à chaque instant à ses fruits. Et le monde, les hommes, on le voit, s'accommodent vraiment bien facilement de ce mode de vie. Même s'il y en a quelques-uns qui se sentent repris dans leur conscience, mais ils se sentent des fois repris dans leur conscience sur certains points précis, et puis beaucoup moins sur d'autres. Mais quand même, on peut dire que globalement, nous constatons parmi notre entourage non chrétien que le péché n'est pas aussi dramatique que nous pouvons le croire. D'ailleurs, le mot « péché » n'est employé que sur le ton de la dérision. Moi, si je m'amuse même au boulot de parler du péché, je ne suis pas pris au sérieux. Et ça me fait mal. Je m'amuse, mais ça me fait mal. Le péché, ce n'est pas le problème. Le problème pour notre société, ce sont plutôt ceux qui révèlent vraiment ce qu'est le péché. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. Quand on lit les prophètes, on voit que c'était eux le problème. Ce n'était pas le péché qui dénonçait, c'était ces personnes-là qui le dénonçaient. Et la conséquence, finalement, de ce que le péché n'est pas pris au sérieux dans notre monde, c'est que le pardon gratuit qui a été offert par notre Sauveur, lui non plus, il n'est pas pris au sérieux. Alors, heureusement, ici, à Prêves-Saint, on tient à employer ce mot « péché » avec sérieux, en considérant aussi que tout son sens et son poids, en se souvenant vraiment que ce péché, à cause de ce péché, de notre péché, notre Sauveur a subi le châtiment horrible de la croix. Et non seulement ça, il a subi l'abandon de son Père. Néanmoins, nous aussi, on peut facilement se laisser gagner par cette idée mensongère que finalement, il n'y a rien à faire contre le péché. Et on se résigne à l'accepter dans nos vies, puisque de toute façon, il fait partie intégrante de notre nature. Et je voudrais justement afficher quelques passages qui caractérisent, qui font le constat de cette nature qui caractérise tout homme. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'aime bien relever chacun de ces passages. Quel caractère justement de ce péché, comment il se manifeste. Genèse 6, verset 5, je dis la deuxième partie, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Dieu, là, constate l'horreur du péché. On ne se rend pas compte de cette horreur, mais on voit que là, Dieu se repentit, il fut affligé dans son cœur. Quelque chose de fort. On voit que c'est dans notre nature, nature profondément ancrée. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Jérémie 17, verset 1, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur. Il est fortement ancré en nous. Le péché maintient l'homme isolé. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le psaume 81, verset 12, il maintient l'homme livré à lui-même, sans aucune possibilité de se remettre en question. « Mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. » Et puis Pierre qui dit « sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Le péché maintient l'homme esclave. Quel espoir! De toute façon, le péché nous enveloppe. Mais alors facilement, nous dit la parole, si aisément. Et par ces versets, on réalise vraiment quelle est en détail l'œuvre avec quelle œuvre il agit en nous. Et il témoigne de cette situation inespérée de l'homme, de l'humanité. Mais néanmoins, il y a un plan. Le plan sur lequel Dieu ne déroge pas. Ce plan, c'est l'œuvre du salut. C'est le plan de Dieu. Et ce plan est de toute autre nature. Il a pour but vraiment de briser ce lien naturel que nous avons avec le péché. J'affiche ce verset de clé de Romains 6, verset 6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Je ne sais pas si vous... je te dirai. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma. Depuis la création, il y a eu le péché. Et on sait qu'on est condamné. Condamné. Mais ça, c'est le plan de Dieu, de l'homme sans Dieu. Hein. Et comment ne pas parler d'un événement crucial, la croix, comme le dit ce verset. Donc là, tu peux afficher. Quand on aborde le sujet de l'homme, on ne peut pas ne pas passer à côté de la croix. Et la croix est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Tout comme sa création, sa chute, le salut offert à la croix est un événement de la plus grande importance pour l'homme, puisque c'est à partir de là qu'il a la possibilité de changer de nature. Et moi j'aime bien ce verset de Romains 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Pour moi, ça inaugure un nouveau projet. Ça veut dire que oui, il y a le péché avant. Oui, il y a le désespoir. Oui, il y a la condamnation. Mais la grâce de Dieu apporte toute autre chose. C'est ce qu'on va voir. Ainsi, la croix n'est pas seulement le symbole de la mort de Christ, mais elle est surtout pour les hommes le signe d'une nouvelle naissance qui a pour but de nous mener à la perfection. Pour encore mieux schématiser, à la croix, c'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste. C'est-à-dire que la miséricorde, il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde, c'est que Dieu ne nous impute pas le mal que nous méritons. Puisque c'est Christ qui paye le prix. Et à la différence, donc tu peux appuyer encore s'il te plaît, voilà cette miséricorde qui se manifeste à la croix. Et après la croix, c'est la grâce. Et la grâce change finalement radicalement. La grâce, la nuance, c'est que là, c'est Dieu nous donne le bien que nous ne méritons pas. Et j'aime bien cette nuance parce que là, elle-même, elle signale vraiment quelle est cette œuvre à la croix. Oui, notre Sauveur Jésus-Christ est mort pour nous. Oui, il nous a libérés du péché. Oui, c'est fini, la condamnation, elle est terminée pour nous. Mais non seulement ça, il nous fait grâce, il nous relève. Et il veut maintenant nous amener à une perfection, la perfection en Christ. Alors, bien que finalement ce bien que nous ne méritons pas, c'est justement cette œuvre nouvelle du Saint-Esprit dans nos vies. Tu peux avancer. Et cette œuvre n'attend qu'une seule chose, c'est que nous le laissions faire. Nous le laissions faire le bien. Ou pour être plus proche du texte, nous le laissions pratiquer les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Ainsi, dans la mesure où le péché nous maintient dans l'esclavage, maintenant la grâce nous met en liberté pour pratiquer le bien et ôter le pouvoir du péché. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Moi, je voudrais vous dire que ce verset, et il y en a plein d'autres, je vais vous en montrer, mais approprions-nous ces paroles. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, n'aura point de pouvoir sur moi. Et ça, je peux vous dire, c'est une certitude, c'est une réalité. Et il faut que cette réalité devienne dans notre vie. Comment voulons-nous être, atteindre une perfection en Christ? C'est le plan de Dieu. Il veut nous rétablir comme avant la chute et déjà sur la terre. Comment acceptons-nous cette promesse ? Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Comment est-il possible qu'une nature initialement aussi corrompue que la mienne puisse être totalement libérée du pouvoir du péché ? Et quoique cela nous semble vraiment inimaginable, c'est pourtant la conséquence merveilleuse de notre salut acquis à grand prix par notre Sauveur. Notre Dieu ne fait pas seulement miséricorde en nous pardonnant nos fautes. Il nous fait la grâce de nous libérer du pouvoir du péché. Et le miracle que notre Dieu opère dans nos personnes, c'est que vraiment c'est lui, par le Saint-Esprit, qui nous qualifie pour que nous ne péchions point et que nous devenions parfaits en Christ. J'affiche la suite des versets. Jésus lui-même, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Paul, il y a Jacques, tous dans le Nouveau Testament, apportent, nous interpellent à sa façon pour nous rappeler vraiment que la sainteté dans nos vies est bien une réalité aujourd'hui pour les hommes, pour les croyants. Oui, le péché est peut-être présent, bien ancré dans nos cœurs, bien dans nos vies, mais ce n'est pas une fatalité. Le but ultime du salut est que nous marchions en nouveauté de vie. Ça, c'est Romains 6, verset 4 aussi. Alors évidemment, si nous pensons réussir avec nos propres efforts, ben ça, c'est perdu d'avance. On va se dépatouiller, on va essayer de s'en sortir. Oui, et il y en a plein. Il y a des légalistes qui font plein de thèses là-dessus. On peut essayer de s'efforcer, mais on sait qu'au bout du chemin, on se casse la figure. Alors, à l'origine, l'homme n'a pas été créé pour vivre dans l'esclavage du péché. On l'a rappelé ce matin. Et certainement, depuis, il a appris à accepter sa situation. Il s'y est peut-être résigné de façon définitive. Mais depuis la croix, la donne a totalement changé. L'homme nouveau désapprend finalement peu à peu ce mode de fonctionnement qu'il avait alors. Ce mode de fonctionnement de l'esclavage. On n'a pas connu, nous, l'esclavage, je dirais, humain. Mais j'essaye de m'imaginer ce que c'était, de finalement avoir aucun choix, que tout est destiné à notre place. Mais c'est ça le péché. Est-ce qu'on vous continuez à vivre en se laissant diriger parce que c'est l'histoire, parce que de toute façon c'est comme ça, on ne peut rien y faire? Non. Non, parce que l'œuvre de Christ en nous, elle est là pour nous relever. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas Christ qui va t'augmenter son salaire, parce que justement, c'est lui qui te donne le pain quotidien. Et je pense que c'est cette mesure vraiment de foi. C'est ce que nous devons apprendre, à rentrer dans notre dépendance avec Christ. Je sais, c'est facile à dire. Pour moi, je n'ai pas de problème. Mais je suis persuadé que cette confiance que j'ai en Christ, il ne me la déçoit pas. Et moi, je veux, Jean-Mi, que toi aussi, tu te confies totalement en Christ. Nous avons tous nos soucis, tous nos problèmes. Qu'est-ce que j'en fais de ces problèmes ? Je les amène à la croix ? Je les mets aux pieds de Christ ? Ou je continue justement à me débattre et à vouloir porter ma croix et continuer à descendre ? Non, le but de l'Évangile, le but du message de Christ, c'est qu'il veut redresser. Je peux continuer à vivre tout en étant sauvé dans un monde qui continue à me condamner. Et je peux continuer à descendre. Et je crois que c'est ça la clé du chose. Dans notre apprentissage, l'homme n'est pas seul. Jean-Mi, l'homme n'est pas seul. Le Saint-Esprit le guide. Il lui donne accès au trône de la grâce. Et moi, je voudrais dire, approchons-nous justement avec foi. Simplement, approchons-nous. Mais je le dis pour moi, parce que moi, j'ai même de l'incrédulité. Je vous dis ça, j'en suis convaincu, mais j'ai quand même de l'incrédulité à croire que c'est ça la solution. Mais pourtant, je sais que c'est ça. Parce que il y a tellement de choses, et on les voit, ces versets. Moi, quand chacun m'interpelle, donc de ses pères de l'Église, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais c'est bien la possibilité que j'ai la possibilité. Il y a la possibilité de ne plus pécher. Quand Paul dit, Je fais tout, moi, ce que je peux. Je travaille à vous, afin de vous présenter à Dieu devenu parfait en Christ. Je veux dire, attends, c'est... Non, je suis désolé, c'est pas du léger, ça. Jacques, pareil, afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. C'est pas après le retour du Seigneur, ça, c'est maintenant. Pierre qui nous dit, soyez saints dans toute votre conduite. C'est réel, ça. Et je suis d'accord, je peux essayer de faire tous les efforts, moi, pour y arriver, je me planterai. Et on se plantera tous si on continue à marcher avec nos propres efforts. Et moi, je pense que c'est une promesse réelle, que l'on peut s'approprier ces promesses. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que dans le Notre Père, que le Seigneur lui-même nous a appris à prier, hein, nous a inculqué cette prière. Dans le Notre Père, quand il est dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais vous croyez que le Seigneur nous dit ça, légèrement, en disant, tu peux le dire, puis je te laisse tomber. Mais moi, je crois non, il a la capacité de ne pas nous soumettre à la tentation. On sait très bien que la tentation ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas lui qui nous tente. Il y a tellement de choses autour de nous qui nous tentent, le monde qui nous tente. Mais lui, il a la capacité de nous libérer de la tentation. Il a la capacité de nous délivrer du mal. Mais faisons cette prière avec foi. Moi, j'en suis persuadé. Paul, et j'ai des exemples. Moi, je ne sais pas si vous lisez la vie, vous avez lu la vie du Sadhu Sundar Singh. C'est des hommes qui avaient une sainteté qui se dégageait autour d'eux. Ils avançaient sur les chemins. Il y avait certainement, bien sûr, des gens qui priaient pour eux. Mais ils rentraient dans un village, dans une ville, ils n'avaient pas besoin d'invoquer qui que ce soit, les démons partaient en courant. Tout simplement parce que la sainteté de Dieu éblouissait toutes les ténèbres. Et moi je pense que Paul a connu ça. Et moi je veux connaître ça. Et je vous encourage à connaître cela. Alors oui, on est dans un monde de ténèbres. On est vraiment rabâché, on s'entend rabâché qu'on est des nuls, que les chrétiens se sont des minables, puisqu'ils parlent du péché. Mais moi, je suis vraiment persuadé, et j'ai la foi, que vraiment notre Seigneur, notre Sauveur, veut nous relever et veut nous faire monter vraiment à la perfection en Christ, quelque chose qui est accessible, mais seulement grâce à lui. Alors, en conclusion, vraiment, de cette série, je voudrais pas... Oui, je me suis un peu allongé. L'homme a été voulu par Dieu. Il a été vraiment créé pour établir une relation, on l'a souvent répété. Et cette relation paisible et durable avec son Créateur. Et la fidélité de Dieu à son égard a été sans faille. Car par le sacrifice de son Fils, Dieu a cherché une relation à rétablir de façon intégrale cette relation initiale. Et maintenant, oui, on est appelé à s'approprier ce plan de Dieu, mais jusque parfait. Vous savez, il est dit aussi que la nature de pécheur, elle peut toujours revenir. Et Jean, il dit dans son épître, si tu as péché, c'est pas grave, tu confesses tes fautes et puis il te pardonnera. Bien sûr, ça va nous arriver de retomber. Mais ce que je veux vraiment insister là-dessus, c'est que nous soyons dans cette confiance aveugle. Il y a encore des points dans lesquels nous ne voulons pas lâcher. Nous voulons continuer à nous battre tout seuls. Eh bien, que notre Père, notre Seigneur, par le Saint-Esprit, nous les révèle. Il y a des points que, on veut garder pour nous. On veut faire nos propres efforts, nos propres leçons. C'est peut-être pas le temps, là encore, de lâcher. Mais le plus tôt sera le mieux. Et moi, je pense qu'on ne peut pas vivre. On est appelé à des disciples. Donc, il y a une discipline qu'on peut se faire nous-mêmes. Mais cette discipline, c'est un fardeau, souvent, qui est trop lourd à porter. Et l'œuvre de Christ à la croix, c'est justement de donner un fardeau qui ne soit pas lourd à porter, un léger à porter. Et comment le porter un fardeau léger, c'est simplement le laisser porter par notre Seigneur et Sauveur. Cette nouvelle vie que Dieu a plantée dans nos cœurs, Il faut qu'elle s'épanouisse. Et c'est cette vie du disciple. Le but de ce plan, c'est que, vous savez, on a été créé corps, âme, esprit. C'est que ce corps, cette âme et cet esprit qui est dans l'homme soient en harmonie. Que ces trois parties-là soient en harmonie. Que notre cœur aussi, notre être entier, puisse être en paix les uns, ces trois parties aussi entre elles et forcément avec notre Seigneur. Alors on le verra lors de la prochaine série sur l'Église. C'est justement vraiment dans l'Église que cette vie des disciples, prend aussi tout son sens. Voilà.
Il y a un mot qui me semble important pour terminer ce temps, c'est Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as apporté. Il y a beaucoup de choses ce matin, beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses à digérer. Si vous êtes choqué, troublé par ce que vous avez entendu, croyez bien que c'est Dieu qui le veut. C'était son plan, simplement. Alors c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Allez sur le site de l'Église, reprenez le texte, écoutez-le. Je pense qu'on essaiera de mettre aussi peut-être les schémas, les différentes choses sur toute la série qu'il y a eu là. Et puis, venez en parler, parlez-en entre vous, venez en parler, c'est important. Merci Seigneur pour ce que tu nous as apporté ce matin encore. Il y a des choses cette semaine dans la vie de l'Église, j'aimerais les partager avec vous, tout simplement. Demain soir, conseil d'anciens ici à 19h30, continuez à prier plus que jamais aussi pour que Dieu dirige et guide aussi les anciens. Mardi, étude biblique Néhémie, on est en plein dedans. La porte qu'on va ouvrir mardi dans Néhémie, c'est la quatrième porte, la reconstruction de la quatrième porte, elle s'adresse à chacun de vous. Elle vous rejoint chacun où vous êtes. Venez un petit peu réfléchir sur cette porte de Néhémie. C'est la porte de la vallée, c'est super une vallée, c'est la porte de la vallée, mais ça nous cache bien des choses. Dimanche, notre culte, ici, et puis quelque chose de plus lointain, qui est dans un peu plus de 2 semaines, mardi 19 février, on a notre assemblée générale ici, l'assemblée générale des membres. Vous allez recevoir la convocation par email pour ceux qui ont un email, par courrier pour ceux qui n'ont pas d'email en tout début de semaine. J'aimerais juste vous donner deux points importants. D'abord que si vous avez souhaité mettre quelque chose à l'ordre du jour, il faut vraiment nous le faire passer avant, donc d'ici une semaine. Et puis, si vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale, ou si quelqu'un dans le couple peut venir, surtout donnez votre pouvoir. Donnez votre pouvoir à votre conjoint ou donnez-le au conseil ou à quelqu'un d'autre, au président ou à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse faire cette Assemblée Générale. Vous savez qu'avec les lois qu'on a, on est obligé d'être un certain nombre de personnes pour pouvoir faire l'Assemblée Générale. Alors vous pouvez ne pas être là, mais donnez votre pouvoir. Oui ? Pardon ? À 20h. Mais ça sera sur la convocation, vous n'en faites pas. Voilà, puis si vous avez des questions sur cet AG, vous pouvez toujours venir en parler aux anciens, à Pierre, à Philippe, à John ou à moi-même. Continuons à prier pour les personnes de l'Église qui sont souffrantes, fatiguées, qui passent par des problèmes. On pense à Roby spécialement, on pense aussi à prier pour Gilberte, on pense aussi à prier pour Anne, pour Jean-Michel aussi, continuons. Et on veut vraiment se rapprocher de Dieu les uns les autres dans ces temps de prière aussi. Et puis on a un sujet de joie aussi. Voilà, vous ne l'avez pas vu encore, hein. Enfin certains l'ont vu aussi. C'est la naissance de Léana cette semaine, donc le 1er février, 8h42. Voilà, je vous donne tout, hein, vous saurez tout. 8h42, 3,40 kg, 47 cm. Voilà. Léana se porte bien, ça va bien. Noémie est un peu fatiguée et donc elle vous demande si c'est possible de ne pas aller la voir à la maternité, simplement. Voilà, mais vous aurez l'occasion après de rattraper en les invitant et en prenant du temps avec eux aussi. On se réjouit, on veut vraiment prier pour ce petit bébé longtemps attendu et puis qui est tout mignon. Voilà. Léana, un beau prénom. On se réjouit avec Noémie et Manu aussi pour ça. Voilà. Et puis, la vie est faite de petits détails tout pratiques. Et je vais laisser le pass à Philippe pour un détail tout pratique. Auquel vous n'avez jamais pensé.
Voilà un détail tout pratique pour nous aider à ouvrir les portes de l'Église. Mais de façon toute pratique, donc. Ouvrir la porte, prendre la poignée, tourner et ouvrir. Vous l'avez tous remarqué, notre bâtiment est équipé de portes de serrures de sécurité, donc avec des barres antipanique, de façon à ce qu'on puisse très facilement sortir. Par contre, c'est parfois plus difficile pour entrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, selon comment on tient la poignée, comment on ouvre, la serrure croche un petit peu et puis ce n'est pas évident. Alors, ces mécanismes de serrure sont un petit peu compliqués et on a tendance, naturellement, quand on veut rentrer, à tourner et tirer la poignée en même temps. Et puis lorsqu'on tire et qu'on tourne, le fait de tirer, ça fait coincer un petit peu le mécanisme. Alors, le conseil tout pratique, c'est de pousser, de tourner et de tirer ensuite. Lorsqu'on pousse, on empêche que les petits leviers de la serrure ne se crochent. Lorsqu'on tourne, ils peuvent se libérer. Et lorsqu'on tire, la porte s'ouvre. Merci.
Est-ce que vous imaginez comment la difficulté que Dieu doit avoir à ouvrir les portes de nos cœurs, si on ne l'aide pas un petit peu? Voilà, pas d'autres annonces, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je vous invite à vous lever, je vous lirai un psaume tout entier pour terminer. Mais rassurez-vous, c'est le plus court. Je vais même vous le lire deux fois tellement il est court. Il fait deux versets, hein. Psaume 117 nous dit la chose suivante, on va le lire d'une façon, et après je vous le lirai d'une autre façon. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance nous est efficace, et la vérité de l'Éternel durera toujours. Louez l'Éternel. » Mais on peut le prendre d'une autre façon et le lire comme ça. « Soyez bénis par l'Éternel, vous toutes les nations. Soyez bénis, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l'Éternel durera toujours. Soyez bénis. » par l'Éternel. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à chacun.